Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, ainsi que Radio Lodev, c'est l'émission Territoire en Mouvement aujourd'hui, co-animée avec Damien. Salut Damien.
Bonjour Maëva.
Alors aujourd'hui la thématique de l'émission sera le programme Rénovissime, l'opération d'aide à l'amélioration de l'habitat dans la vallée de l'Hérault. Alors vous le savez, la vallée de l'Hérault se compose de 28 communes qui accueillent un peu plus de 42 000 habitants. Une expansion démographique depuis 20 ans et forcément la question du logement est importante pour pouvoir accueillir toute cette population. Depuis 2008, la communauté de communes est engagée dans une politique du logement qui vise à permettre à ses habitants d'avoir un accès à un logement abordable et décent. Et à cela se rajoute le contexte économique actuel qui rend l'action des institutions d'autant plus nécessaire vu l'état du marché immobilier de plus en plus tendu avec un pouvoir d'achat des familles de moins en moins élevé. Et donc pour parler de l'engagement de la communauté de communes Vallée de l'Hérault en matière d'habitat, nous recevons aujourd'hui dans cette émission donc Madame Mayoussier, responsable du service Habitat. Bonjour Madame Mayoussier.
Bonjour.
Madame Ambrosino, chef de projet Rénovissime chez Urbanis. Bonjour.
Bonjour.
Et pour terminer le tour de table, Monsieur Pugins, vice-président à l'Habitat. Bonjour Monsieur Pugins.
Bonjour.
Alors on va commencer tout de suite, Damien, avec une première thématique autour de l'habitat, du logement.
Oui, pour commencer, Jean-Pierre Pugins, donc on le disait, vous êtes vice-président à l'Habitat pour cette communauté de communes Vallée de l'Hérault. Avant de revenir plus en détail donc, sur Rénovissime en deuxième partie d'émission, déjà finalement, quelle est la politique pour la Vallée de l'Hérault autour de l'habitat? On le disait en introduction avec Maëva, depuis 2008, donc le premier plan local de l'habitat. Voilà, vous pouvez un peu nous expliquer, vous, d'un point de vue des élus, ce que vous voulez faire autour de l'habitat et ce que vous faites depuis maintenant plusieurs années déjà.
Très bien, merci. Comme vous l'avez indiqué et présenté en début de cette séance, la communauté de communes Vallée de l'Hérault a une forte attractivité géographique, parce qu'on se situe au bord de la 75 à la 750, et une attractivité aussi parce que nous possédons des lieux, des sites très intéressants, comme Saint-Guilhem, comme les différents cirques que nous avons autour de nous. Et dans ce cadre-là, nous avons une forte expansion démographique. Quand j'ai dit forte expansion démographique, il faut que vous sachiez que c'est 800 habitants de plus en moyenne par an qui viennent. Donc la problématique est une problématique importante et primordiale, la problématique de l'habitat. Alors pour ce faire, il faut prendre en compte aussi l'ensemble des problèmes que nous avons actuellement. Quand je dis l'ensemble des problèmes que nous avons actuellement, c'est la réglementation sur l'extension des communes est très réduite avec la zéro artificialisation nette. Et donc, on doit se retrouver sur une réflexion, un changement de paradigme, pratiquement, pour la réalisation de l'habitat sur nos communes.
Est-ce qu'on peut expliquer justement le ZAN, le zéro artificialisation nette? Oui, c'est compliqué. Plus concrètement, hein, c'est l'État qui va finalement empêcher les communes de trop s'étaler. On peut expliquer la situation qu'elle va...
Rapidement, et ceci se dépend commune par commune, hein, parce qu'il y a différents cas. Mais grosso modo, c'est l'État refuse l'expansion démographique comme elle était faite actuellement, c'est-à-dire de l'horizontalité pour se transformer plutôt en verticalité. Et donc, on a des règles de calcul qui font qu'on doit consommer moins de la moitié de ce qu'on a consommé sur un délai qui est fixé par l'État. Donc, ce qui veut dire qu'on va reconcentrer les villes sur les villes et on n'aura plus cette extension démographique, géographique que nous avions.
Donc, vous devez repenser l'habitat.
On repense l'habitat. Et pour repenser l'habitat, quand on parle d'habitat, on a la première réflexion, c'est l'habitat neuf. Mais en réalité, dans l'habitat, il y a l'habitat neuf, il y a le centre ancien, il y a les logements vacants, il y a tout ça. Donc l'idée, au travers de l'idée profonde que M. Soto, le président de la CCVH, nous a demandé de mettre en œuvre, c'est comment donner un logement à chaque type de famille. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui ont les moyens qui peuvent aller dans l'accession, des personnes qui ont moins de moyens qui peuvent aller sur du logement social, mais aussi il y a des populations spécifiques. Hein. Il y a les problèmes des femmes battues, il y a les problèmes des jeunes, il y a les problèmes des voyageurs. Quand je parle aux voyageurs, je parle aux gens du voyage. Donc, il faut retrouver une cohérence dans tout ça. Et pour retrouver une cohérence dans tout ça, depuis 2008, vous l'avez dit, et il y a eu un premier PLH alors que rien n'était obligatoire. C'est une volonté qui a été marquée déjà dès 2008, volontairement, de construire le PLH pour avoir un squelette sur l'organisation globale du développement de l'habitat. Ensuite, on a eu le deuxième PLH, qui est en cours de finition. Et dans ce PLH, on a des expériences qui commencent à venir sur la gestion, notamment des centres anciens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le troisième PLH, puisque je l'ai présenté hier en conseil communautaire, et qui sera applicable au mois de juillet 2025.
Oui, qu'on comprenne bien, alors Sandy Mayoussier, le PLH, c'est le plan local de l'habitat. C'est en gros le schéma directeur pour tout le travail autour de l'habitat. Quelles sont justement les grandes orientations autour de ce nouveau PLH? Ça diffère, on peut expliquer
Oui, c'est une feuille de route en fait pour 6 ans. Pour donc indiquer comment le logement doit être produit et proposé sur l'ensemble du territoire intercommunal, donc de manière équilibrée et cohérente. Donc cohérente pourquoi ? Parce qu'en fait, nous établissons un diagnostic territorial qui se base pour beaucoup sur le besoin des habitants et des futurs résidents. Et comme l'a dit donc notre vice-président logement, M. Pugins, ça s'attache surtout donc à la production de logements dans sa globalité, mais surtout pour les publics plus spécifiques qui ont du mal à accéder à un logement décent. Donc le programme local de l'habitat, sur les différentes orientations qu'il peut avoir, c'est la production globale de logements sur la totalité des communes. Donc on regarde notamment ce qu'on appelle l'armature urbaine et comment sont équipées chaque commune en termes de services de proximité, d'équipement, pour pouvoir définir justement le nombre de logements à produire sur la période des 6 ans. Et puis plus spécifiquement, pour les publics qui ont une difficulté d'accès au logement, c'est d'indiquer quelle sera la production en logement social. Hein, puisqu'on a un taux d'équipement, c'est vrai qu'il est un peu faible sur le territoire. Donc beaucoup de demandes, peu de logements, donc il faut pour produire plus en lien avec les bailleurs sociaux. Et également pour les publics spécifiques, d'avoir donc de l'offre en hébergement d'urgence aussi. Il y a tout un volet sur le parc ancien, ce qu'on appelle le parc ancien, donc notamment qui se trouve dans les centres de village, et sur la question de la réhabilitation des logements. Et Rénovissime est une des actions qui découle du programme local de l'habitat, par exemple.
Eh bien, je vous propose qu'on rentre justement dans le détail de cette opération Rénovissime. Alors avant de commencer, pour les personnes, les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas du tout, est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes ce qu'est le programme Rénovissime ?
Alors Rénovissime existe depuis 2012. Nous en sommes au troisième programme qui a été relancé donc fin avril 2024. C'est une action phare pour la communauté de communes puisque donc on a un fort succès depuis 2008 et il s'agit d'aider les propriétaires, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs à réaliser des travaux dans leur logement. Donc plusieurs types de travaux, ça peut être l'aide au maintien à domicile pour les personnes entrant dans l'âge ou porteuses d'un handicap, la précarité énergétique est un sujet actuellement assez prégnant hein, avec la difficulté justement des ménages de faire face aux dépenses d'énergie et aussi donc les travaux lourds pour les bâtiments relativement dégradés, on parle là d'habitat insalubre ou indigne pour des propriétaires occupants mais aussi des propriétaires bailleurs qui veulent remettre aux normes leur logement et donc les aides sont concentrées des différents financeurs donc la CCVH, communauté de communes porte le programme en tant que maître d'ouvrage. En revanche, donc, elle s'associe avec l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, et le département de l'Hérault pour porter ce programme. Donc là, le dernier qui vient d'être relancé, c'est pour 3 ans, jusqu'en 2027. Et on va lever 5,5 millions d'aides aux travaux pour les propriétaires.
Et donc l'interface sur le territoire, ce sera la société Urbanis ?
Le bureau d'études justement urbanistes a été mandaté par la communauté de communes pour conduire justement cette mission d'accompagnement des propriétaires aux demandes de financement.
Bien, je vous propose, Madame Ambrosino, qu'on présente un peu l'Urbanis.
Donc Urbanis, c'est un bureau d'études spécialisé dans le logement et l'habitat. On anime et on pilote donc des programmes centrés sur le logement et plus particulièrement sur la mission Rénovissime. En fait, on va s'occuper de tout ce qui est accompagnement des propriétaires qui souhaitent réaliser leurs travaux. Ça peut être aussi des locataires dans le cadre des logements indignes, comme a dit Madame Mayoussier. Mais on va vraiment faire le premier contact, expliquer comment ça va se dérouler, déposer les dossiers de demande de subvention. subventions. On va aussi apporter un conseil technique qui est très important, puisque les gens, on se rend compte que ils se posent beaucoup de questions sur leurs projets de travaux. Donc nous, on est vraiment là pour leur apporter un soutien technique, administratif, et après trouver des solutions de financement. Voilà. Donc pour ça, enfin, je ne sais pas si on en parlera maintenant, mais on a des permanences téléphoniques où les gens peuvent nous contacter. On fait des permanences physiques pour que les gens puissent venir nous voir, parce qu'on a aussi des populations, le téléphone et Internet, c'est pas forcément, ils ne sont pas forcément très à l'aise avec. Donc nous, par le biais de la communauté de communes, on a mis en place un peu tous les leviers pour que les gens puissent nous contacter par téléphone, en face à face, enfin voilà, pour pouvoir faciliter en fait les échanges entre les administrés et le bureau d'études qui les accompagne.
On donnera bien sûr en fin d'émission les contacts pour vous contacter directement et pour avoir plus d'informations.
Oui, tout
alors,
à fait.
S'il y a un nouveau plan Rénovissime 2024-2027 qui débute, ça veut dire qu'il y en a eu des précédents, il y a eu des bilans qui en ont été tirés, j'imagine. Comment ça s'est passé pour ces années précédentes avec ce dispositif Rénovissime en Vallée de l'Hérault, Sandy?
Un fort succès. Depuis qu'il y a eu des opérations programmées donc sur la vallée de l'Hérault, on a un peu plus de 1000 logements qui ont été réhabilités. Et donc le dernier programme Rénovissime, donc c'était 2018-2023, on a eu un peu plus de 470 logements réhabilités, principalement sur l'énergie et aussi pour beaucoup l'autonomie, puisqu'il y a une forte demande des personnes âgées pour des travaux d'adaptation de salles de bain, de monte-escalier ou de domotique également.
Oui. Jean-Pierre Pugès.
Oui, juste une intervention pour indiquer que les politiques que nous sommes voyons le problème plus général. Et là, effectivement, on vient de parler des personnes qui ont ce besoin et qui ont besoin d'être accompagnées parce que soit ils n'ont pas les possibilités, soit ils n'ont pas la capacité d'envisager ce genre de travaux. Mais aussi, il y a les entreprises à côté. C'est-à-dire que le monde économique est fortement impacté, quand je dis impacté positivement, puisque ça fait pratiquement plus de 2 millions d'euros qui sont injectés chaque année dans une sphère relativement réduite, qui est une sphère locale, parce que les intervenants sont souvent des plombiers, des électriciens, des menuisiers. Donc ce sont des métiers que l'on retrouve tout autour de nous et qui peuvent bénéficier aussi de cette manne. C'est pour ça que ça fonctionne bien, parce qu'on est en train de labelliser certaines entreprises qui permettront d'avoir aussi des accès plus fréquents là-dessus. Et on a la semaine prochaine un rendez-vous justement avec tous les artisans, l'ensemble des artisans, pour leur indiquer qu'on repart et dans ce cadre de nouveaux départs qu'ils puissent intervenir de la même façon qu'ils sont intervenus jusqu'à maintenant.
Oui.
Une précision sur la date, jeudi 7 novembre. En fait. À 8h30 à la communauté de communes, justement, un café-rencontre avec les artisans. Ils peuvent s'inscrire, justement, pour pouvoir participer à cette rencontre.
Alors, justement, avant d'enchaîner, on en était sur les bilans. C'est un bilan qui concerne majoritairement qui ? Les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants. C'est qui a surtout bénéficié, finalement, de cette aide Rénovissime sur les années précédentes ?
Les propriétaires occupants à 90%, en fait. Hein. En revanche, quand même, les propriétaires bailleurs peuvent en bénéficier pour différents types de travaux, l'énergie, l'autonomie aussi, et les travaux lourds. Et donc, c'est vrai que ces dossiers sont un petit peu plus complexes à monter. Cela impose aussi aux propriétaires bailleurs de conventionner le logement en logement social, donc avec des plafonds de loyer qui lui sont imposés pendant 6 ans. Et donc, il y a aussi un public locataire qui est ciblé avec des plafonds de ressources à respecter également.
Hein. Oui, voilà. Parce que quand on parle de logement ancien, ancien, c'est vague, c'est des logements qui ont combien d'années
Alors, pour déposer un dossier de demande de subvention, aujourd'hui, il faut que le logement ait plus de 15 ans.
Oui, donc,
en tout cas, pour les travaux d'économie d'énergie et pour les travaux lourds. Par contre, sur les travaux d'autonomie, il n'y a pas d'ancienneté du logement qui est imposée. Mais effectivement, un logogement de plus de 15 ans, ce n'est pas non plus l'ancien.
On va y revenir, mais voilà, les termes ancien, ce n'est pas si vieux que ça.
Non.
Je propose qu'on continue en pratique, justement.
Ben oui, on a commencé un petit peu en parlant de type de logement. Alors, le programme Rénovissime, c'est pour qui ? Si on veut reprendre un petit peu de façon synthétique, qui peut déposer un dossier pour répondre donc à ce programme ?
Alors, en tant que propriétaire bailleur, tout le monde est éligible, puisqu'on ne va pas regarder les ressources. C'est comme disait Sandy, À partir du moment où ils rentrent dans le programme, qu'ils conventionnent leurs biens à des loyers modérés avec des personnes aux ressources plafonnées, tout le monde est éligible. Pour les propriétaires occupants, néanmoins, la première chose qu'on va regarder, c'est leurs ressources, puisque en fait, il y a une grille qui est faite par l'ANA et actualisée tous les ans, qui donne les revenus à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Donc c'est vraiment la première chose, c'est les ressources des propriétaires. Une fois qu'on a regardé leurs ressources, effectivement, on regarde l'année de construction du bâti. Et puis ensuite, on va regarder leur projet, puisqu'effectivement, on disait qu'il y avait tout un tas de travaux qui étaient éligibles. Néanmoins, il y a aussi des travaux qui ne le sont pas. Donc, sur tout ce qui est travaux d'autonomie, on va prendre quasi tous les travaux. Donc, effectivement, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est les travaux d'adaptation de la salle de bain, hein, parce que l'objectif, c'est que les gens puissent rester à leur domicile le plus longtemps possible. Donc, souvent, ce qui les empêche de rester chez eux, c'est une baignoire, ce qu'ils ne peuvent plus enjamber pour prendre leur douche. C'est une chambre à l'étage ou même une salle de bain à l'étage. Donc, en fait, ils ne peuvent plus accéder à cet étage. Donc, on installe un monte-escalier. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent, en tout cas, pour les dossiers autonomie. Ensuite, pour les travaux d'économie d'énergie, ce qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est le changement du système de chauffage, isolation des parois. Puisque aujourd'hui, il faut savoir que l'État ne finance que les projets de rénovation globale et performante. C'est-à-dire que du poste par poste ne peut plus être financé, en tout cas dans le cadre de Rénovissime. Donc vraiment, on fait des rénovations globales et performantes, donc avec isolation des parois. Donc ça peut être isolation de la toiture, des murs, des planchers bas, changement des menuiseries, installation des systèmes de ventilation, c'est très important dans le logement. Et donc aussi, après, on travaille sur les systèmes avec l'eau chaude sanitaire, comment on peut améliorer la production d'eau chaude sanitaire et améliorer les systèmes de chauffage si on est d'une vieille chaudière fioul. Donc nous, on est vraiment là pour l'appui technique, savoir comment on peut rénover intelligemment. En fait, c'est ça, parce que ça n'a pas toujours été le cas.
Pour préciser, cet accompagnement d'urbanisme est remis à disposition gratuite aux propriétaires, hein, donc par la communauté de communes.
Oui. D'accord.
Parce que c'est un accompagnement technique, mais c'est aussi un accompagnement administratif parce que, on a cité l'ANA par exemple, l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, il y a des financements qui sont disponibles finalement pour les administrés, mais un peu cachés. Vous, votre rôle aussi, c'est justement d'aller chercher ces financements pour les aider à financer leurs projets.
Tout à fait, en fait, on mutualise tous les financements qui existent. En fait, on va déposer tous les dossiers de demande de subvention pour le compte du propriétaire pour son dossier. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi des subventions qu'on ne mobilise pas à chaque fois, mais pour les cas un peu particuliers, on a des financements comme la Fondation Abbé Pierre qui peut appuyer, parce qu'en fait, on n'en a pas encore parlé, mais on a aujourd'hui des subventions qui sont très élevées. Pour des travaux d'autonomie, on peut aller jusqu'à 100% du financement des travaux hors taxes. Donc ça veut dire que le propriétaire aura encore à sa charge la TVA. Mais la problématique, c'est souvent l'avance des subventions. Donc l'ANA peut faire une avance d'une partie de la subvention, mais effectivement, nous, on ne paiera la subvention que sur facture acquittée. Donc en fait, la problématique, même sur un financement à 100%...
C'est la trésorerie.
C'est la trésorerie. Et donc nous, on réfléchit à des solutions de financement et donc on va chercher au-delà des financements classiques ANA, département, plus CCVH, on va voir Fondation Abbé Pierre. Des fois, on peut demander des prêts un peu particuliers. Donc voilà. L'objectif, c'est de trouver des solutions à ces personnes qui ne feraient pas de travaux sans toutes ces aides.
Puis on le voit, alors finalement, ces travaux, ils peuvent être multiples avec plusieurs orientations dans ces travaux. J'imagine que vous avez aussi, un vrai rôle de conseiller. Des personnes doivent venir vous voir pour dire, voilà, ben, j'ai envie de changer ma baignoire, que je puisse me laver assez facilement. Et puis vous, quand vous rendez chez les personnes, vous voyez d'autres travaux à faire. Enfin, il y a aussi ce vrai rôle de conseiller.
Alors effectivement, il faut savoir qu'à partir du moment où une personne vient nous voir et qu'elle a un projet, tout type de projet, nous on fait une visite sur place, c'est-à-dire qu'on ne déposera pas de dossier de demande de subvention tant qu'on n'a pas vu le logement. Il nous est arrivé que des gens nous appellent pour installer des panneaux photovoltaïques et finalement on s'est rendu compte qu'on avait un problème d'étanchéité de toiture. Donc nous on fait une visite automatique pour chaque projet et après on fait un conseil en fonction de ce qu'on voit et en fonction des besoins, parce qu'effectivement les gens nous sollicitent pour certains postes de travaux alors qu'il y a des priorité qu'ils n'avaient pas intégrée. Donc nous, on est vraiment là pour, pour avoir un conseil technique pour les propriétaires.
Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de financièrement aussi, de projets que vous avez
Alors, sur les dossiers autonomie, là, c'est un exemple qu'on a déposé en début d'année, en début de programme. C'est une adaptation de salle de bain plus un monte-escalier pour un occupant qui était modeste. Donc, les subventions sont un petit peu moins élevées que si ça avait été un propriétaire très modeste. Donc, lui, il avait environ 12 000 euros de travaux TTC, et il a eu une subvention de 8 426 euros. Alors c'est très précis, mais bon, voilà. Et donc il a en fait un reste à charge à hauteur de 3 625 euros. Donc finalement son projet faillit être financé à hauteur de 70% du montant TTC, donc c'est très intéressant, mais lui effectivement il aura 30% à financer de sa poche, en sachant qu'on est sur du modeste. Si ça avait été un très modeste, il aurait eu plus de subventions, peut-être même 100% de subventions sur ses travaux. Pour un projet énergétique, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus sur du poste par poste. On est vraiment sur des projets de rénovation globale. C'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, si vous nous appelez juste pour l'isolation d'un mur, il y aura zéro financement. Donc là, on a eu le cas d'une isolation par l'extérieur, isolation des planchers bas. Donc plancher bas, c'est par exemple quand votre logement est au premier, quand vous avez un garage. Donc on isole le plancher entre le logement et le garage par en dessous. Donc isolation du plancher bas, on a eu l'installation d'un ballon thermodynamique qui va permettre de chauffer l'eau chaude sanitaire, et c'était pour un propriétaire très modeste. Le montant des travaux, c'est 75 000 euros, c'était une grande maison et on est sur de l'isolation thermique par l'extérieur, donc c'est quand même assez coûteux. En plus, on était sur des matériaux, dans ce cas-là, matériaux biosourcés. Ils ont eu 58 000 euros de subvention. Donc ça leur fait 78% de leur projet qui a été financé par l'ANA, le département et la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. Voilà. Donc ça c'est un projet très particulier, mais c'est ce qui peut en tout cas être débloqué aujourd'hui sur ce territoire.
On comprend mieux, Jean-Pierre Pugens, finalement, l'atout de ce dispositif Rénovissime pour reconstruire, voilà, sur l'ancien, faut en passer par là, enfin, pour réhabiliter ces centres-villes et pas que, pour pouvoir se réapproprier ces centres-villes.
Hein. Oui, effectivement, c'est une des solutions. C'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. Et comme on vous l'a dit, cette opération, c'est pas une opération tir à orchestre, c'est une opération cossée, une opération de permettre à des gens de découvrir des modes de financement et de pouvoir y accéder. Donc ça, c'est la volonté. Et la volonté après de l'élu des élus que nous sommes, c'est de conserver au centre ancien un habitat accessible, un habitat conforme aux normes actuelles et surtout d'avoir la vie qui se déroule dans ces centres anciens pour maintenir l'accès des commerces et l'accès à tout cet ensemble. Donc c'est une globalité plus qu'un petit souci.
Concernant donc le traitement de l'habitat indigne, en fait les précédents programmes justement permettaient déjà une action de la communauté de communes à ce titre-là, puisque donc nous missionnions déjà Urbanis sur le traitement des signalements d'habitat indigne. Alors qu'est-ce que c'est? Un locataire qui se considère mal logé va signaler justement l'état de son logement, et donc il y a une visite qui va être faite avec un diagnostic qui sera porté, et en fonction des désordres constatés, le logement pourra être considéré soit non décent, voire insalubre ou en péril. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir justement mettre en sécurité le locataire, ou voire de lui permettre de vivre dans des conditions de salubrité sanitaire suffisantes et nécessaires.
Et on peut rappeler qu'il y a une plateforme justement qui est dédiée...
Depuis 2 ans. Ouais. C'est l'État qui a développé cette plateforme, Histologe. Et donc toute personne peut aller consigner sur Histologe justement ses problèmes de logement. Et donc automatiquement, le signalement vient donc chez nous. Et donc Urbanis effectue la visite pour permettre de diagnostiquer le logement. Donc suite à ça, nous avons un comité local au sein de la communauté de communes qui permet en fait de mettre autour de la table tous les acteurs concernés, les acteurs de l'habitat, de l'habitat indigne, donc Agence Régionale de Santé, la CAF de l'Hérault, les travailleurs sociaux. Et on va regarder précisément chaque situation pour voir justement quel est l'état du logement, quelles procédures mettre en œuvre. Le but, c'est que les travaux soient réalisés par le propriétaire. Donc la CAF de l'Hérault peut conserver les aides au logement. L'Agence régionale de santé donc prescrire un arrêté d'insalubrité avec une suspension des loyers et même voir des astreintes portées aux propriétaires pour le contraindre, entre guillemets, à effectuer des travaux. Et concernant le péril, ce sont les pouvoirs de police humaine qui s'appliquent. Donc on essaye de faire ça de manière concertée. Il est vrai que Urbanis est là pour être en lien entre l'opérateur et le bailleur, parce que le but n'étant pas de tendre des situations ou de générer des conflits entre le propriétaire et le locataire, et donc de trouver des solutions au plus vite pour permettre au logement d'être confortable et au locataire d'être bien logé.
Très bien, bah, je vous remercie en tout cas d'être venu présenter ce programme aux habitantes et habitants du territoire de la vallée de l'Hérault. On va rappeler bien sûr les contacts importants pour si vous êtes concerné par ce programme et que vous souhaitez rentrer dans une démarche. Quels sont le numéro ou le site internet à consulter ?
Alors, on réalise deux permanences téléphoniques, le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 17h. Donc, vous pouvez nous joindre au 04 67 73 61 76. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet www.renovissime-valledelhérault.fr. Vous pouvez prendre rendez-vous sur ce site pour pouvoir nous rencontrer lors de nos permanences physiques à Gignac et sur nos permanences délocalisées sur d'autres communes. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par ce biais.
On invite aussi les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent à venir vous rencontrer le jeudi 7 novembre
Les professionnels.
Ils peuvent également figurer dans un répertoire que l'on met à disposition des propriétaires. Donc il faut qu'ils engagent une démarche auprès de nous, mais ce répertoire est sur le site internet dédié justement.
D'accord, très bien. Ben, je vous remercie, merci beaucoup à tous les trois. Donc c'était, je vais faire un petit tour de table, Sandy Mayoussier, responsable du service Habitat, Élie Ambrosino, chef de projet Rénovissime chez Urbanis, et bien sûr Monsieur Pugens, vice-président à l'Habitat. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce programme dans Territoire en Mouvement. Merci beaucoup Damien pour Radio Lodève.
Merci à toi Maïva.
Et à très bientôt sur nos ondes.
Merci.